Alors, là, ça enregistre, t'as le droit à 204 minutes. T'as le droit à aller. Paf. Paf. Vas-y. C'est bon. J'arrête.
Et là, j'attends que le mec se connecte. Salut Nicole, excuse-nous, on va faire une réunion enregistrée, donc ça va être. On n'arrive pas, donc on se met là. On s'est branché, on est obligé de se brancher. Non, c'est branché ici sur l'ordi. Non, mais ne bouge rien parce que là, on vient d'y arriver. On vient d'y arriver et c'est bon. Ça va?
Oui, c'est bon.
Bonjour. Bonjour Cyril, vous m'entendez?
Alors,
Bonjour.
la vidéo. Super. Est-ce que
C'est
tu
Cyril?
m'entends?
Oui, je vous entends très bien. C'est Cyril ou c'est Julien? Je ne sais pas.
Non, mais je peux mettre le jabra. Par contre, j'entends rien du tout. Attends, je branche un jabra parce que je t'entends pas du tout. J'ai pas de son qui sort.
D'accord.
Est-ce que tu m'entends, toi?
Oui, parfaitement.
Ah, ça y est, j'ai du son, je t'entends.
C'est bon?
Ouais. Et là, la
Ah, d'accord,
vidéo.
c'est Cyril. C'est Cyril, ok, super.
Il y a moi, il y a Julien à côté et Arnaud de l'autre côté.
Ah, super, les trois. Julien, salut. Bon, ben, comme quoi, ça valait la peine de prendre le temps. Et c'est donc Julien Sénécal et Arnaud
Et Arnaud d'Auxerre.
d'Auxerre, ok. Qu'est-ce que tu penses du son juste là? Allez-y, parlez 2 secondes. Faut mettre plus fort, non?
On est là, Julien Sénécal.
C'est super, parfait. Donc, alors merci de votre patience. On n'est pas chez nous en fait, et donc on a toutes sortes de problèmes techniques. Mais là, je pense que c'est bon. On enregistre l'émission Zoom, et après on la remontera pour faire une émission radio. Donc, ne vous étonnez pas si je fais toutes sortes de discours à nos auditeurs fictifs. Si je lance des chansons que vous n'entendrez pas, évidemment, ça sera remonté après pour que ça soit diffusé demain soir. Voilà.
Ça
Et
marche.
avec votre accord, j'en tirerai peut-être aussi une interview écrite pour la publier sur mon blog Mediapart.
N'y a pas de souci.
Ok, super. Alors, c'est parti. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous sommes le jeudi 20 mai et l'émission vous est présentée par Culture Poub. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Sénécal, Arnaud d'Auxerre et Cyril Briffaut. Vous êtes tous trois parmi les derniers salariés de la papeterie Chapelle d'Arblay et vous êtes aussi délégués syndicaux. Vous êtes parmi les derniers salariés de Chapelle d'Arblay, je disais, car c'est une papeterie qui est actuellement à l'arrêt. Depuis juin 2020, son propriétaire, le groupe finlandais UPM, veut la démanteler, alors que c'est une usine très importante en France, puisque c'est la plus grande usine, ou c'était en tout cas la plus grande usine à produire du papier journal recyclé en France, pour citer un chiffre, mais vous nous en direz sans doute plus. Cette papeterie permettait de produire 25% des besoins en papier journaux de la France. Donc, c'est un site unique vers lequel était redirigée une grande partie de nos déchets papier pour le recyclage, hein, une partie de ce que vous mettez, chers auditeurs et auditrices, dans les poubelles jaunes. Et donc, on va évoquer la situation de ce site industriel ensemble. Déjà, est-ce que vous pouvez, Cyril Briffaut, nous en dire plus? En décrivant le site et en nous expliquant dans quelle situation il se trouve actuellement.
Oui, alors Chapelle Darblay, pour refaire un petit point là-dessus, c'était la seule usine en France à faire du papier journal 100% recyclé. Ça, c'est un point important. Malheureusement, en septembre 2019, le groupe propriétaire a donné sa décision de la mettre en vente et à la fin de la fermer. Donc, la décision avait été prise directement de fermer l'usine. Et on se bat depuis ce moment-là à démontrer ce qu'était Chapelle Darblay et pourquoi il y a une importance vitale en France. C'est vraiment un sujet qui concerne absolument tout le monde. Quand ça concerne un tiers des Français, on peut imaginer que ça concerne absolument tout le monde et à sauver ce site. Donc, Chapelle Darblay, c'était en 2015, avant la fermeture d'une de ces deux machines. C'était une usine qui fabriquait sur une des deux machines 240 000 tonnes de papier journal 100% recyclé et sur la deuxième 120 000 tonnes. Donc, on monte à 360 000 tonnes par an de fabrication de papier journal à partir de fibres 100% recyclées, ce qui fait des entrants, donc les matières, les poubelles jaunes, ce qui nous fait des entrants de plus de 400 000 tonnes, à peu près 450 à 480 000 tonnes par an de papier issu des collectes sélectives, issus de vos poubelles qui rentrent à la Chapelle Darblay. En 2015, cette machine avait été arrêtée par le groupe. On s'était battu pour trouver des solutions. Malheureusement, quand ils sont propriétaires, ça a été très compliqué. Donc, on l'a maintenu sur place. On l'a maintenu sous notre protection pour lui trouver une issue derrière. C'est peut-être le moment parce que dans les projets de redémarrage de l'usine, on a aussi des projets pour la machine 3. Un site qui a deux machines pourrait revoir ses volumes et réabsorber ces 480 000 tonnes de volume de papier de déchets. Voilà, on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les salariés ont été licenciés, la quasi-totalité des salariés ont été licenciés en juillet 2020. Reste sur place donc le directeur du site, bien évidemment, et les trois protagonistes que vous avez en face, donc le délégué syndical, le secrétaire du CSE et l'UCGT, et le représentant des cadres, sans étiquette, Arnaud Deuxer, et donc Julien Sénécal et moi-même.
D'accord, merci beaucoup. Et donc, quels sont les produits que vous faisiez à cette usine? Uniquement du papier journal? Est-ce que vous aviez d'autres produits à partir du papier recyclé?
On faisait uniquement du papier journal, mais le papier journal, il est de différentes qualités, différentes couleurs. On avait ici plusieurs spécialités, notamment sur la machine 3, de faire, grande première mondiale, de faire un papier journal extra blanc, pour faire les unes, que les journaux aiment bien mettre avec de la couleur, notamment quand il y a des manifestations de CGT ou de Greenpeace, il y avait beaucoup de couleurs, donc ils aiment bien mettre ça sur des fonds blancs. C'était une invention d'ici, ce qu'on s'appelle du braille 80, et en 100% recyclé, on était les seuls à savoir le faire. Parce que c'est la fibre de bois est blanche naturellement, la fibre recyclée, évidemment, est grise, et pour la rendre blanche, il fallait tout un procédé de raffinage où on réutilisait derrière nos eaux. Et c'était une exclusivité. On faisait aussi des pages saumon, des pages vertes. On a fait aussi les pages du Coran. On a fait beaucoup de choses ici. On avait fait historiquement les pages jaunes aussi. On a fait beaucoup de choses. Mais tout ça est issu du papier journal à l'origine. Et ici, on ne faisait que du papier journal.
Et elle date de quand, cette usine? Elle a été ouverte à quel moment, dans quel contexte?
Alors, cette usine, elle a été ouverte en 1927. C'est pour ça qu'on a, nous, de notre côté, les salariés, les représentants des salariés, la CGT, bien évidemment, avec le CE de Chapelle Darblay, on avait fêté nos 90 ans en grande pompe, hein, avec exposition, savoir-faire, on était encore en activité à ce moment-là. Il faut savoir qu'ici, on est très fiers de savoir faire ce papier, et surtout ce papier issu de fibres recyclées. On essaye de faire penser à tout le monde, de repenser différemment les choses. On peut fabriquer du papier journal, on peut fabriquer d'autres types de matières, ça c'est dans différents projets qu'on vous exposera après, mais on peut fabriquer ces matières-là sans couper des arbres. On peut réutiliser les matières qui sont mises à la poubelle parce que sur beaucoup de boîtes, de projets, de papiers que vous utilisez, ou autres, vous allez voir, c'est marqué 100% recyclable. Alors ça, c'est très bien que ce soit 100% recyclable. Malheureusement, ce n'est pas recyclé. Il faut des industries comme la nôtre qui tournent encore pour que ce soit recyclé. Tout le monde fait l'effort maintenant d'emballer dans des produits qu'on puisse recycler, de prendre des papiers, de les mettre dans les poubelles, de faire ce tri pour pouvoir recycler. Malheureusement, il faut des industries pour le faire derrière. S'il n'y a rien pour le faire derrière, ça finira comme les poubelles noires, ça finira en incinérateur ou à la fin à être enfoui dans un des 52 centres, je crois, qu'il y a en France d'enfouissement. Et il faut absolument arrêter tout ça.
Les industries. Oui, si ce n'est pas redirigé vers vous, ça part à l'incinérateur ou en décharge, en fait.
Pour le moment, non. Parce que, on va dire, s'il y a bien au moins un côté positif à cette crise sanitaire qu'on vit, c'est qu'il y a une baisse de la consommation, donc une baisse des poubelles. Donc, dans les volumes, il y a une baisse des volumes et tout ce qu'on avait jusqu'ici. Arnaud, aussi, dont c'était le métier, avait trouvé aussi des solutions pour que tout reparte en Allemagne, pour éviter que ce soit brûlé ou incinéré. Parce qu'on a aussi cette responsabilité-là, on ne pouvait pas planter En France, on ne pouvait pas planter le recyclage. Il faut savoir, quand vous prenez un tiers, vous retirez un tiers du volume, c'est une catastrophe. Il a bien fallu trouver une solution à tout ça. On travaille quasi exclusivement avec des collectivités. Les collectivités, c'est des petits centres de tri. C'est chaque ville a sa compétence dans son tri. Il faut, si la solution, c'était Chapelle d'Arblay, si on reprend l'histoire, Chapelle d'Arblay, 1985, on initie le recyclage en France du papier. Donc, on commence à créer cette nouvelle matière, on commence à initier ce recyclage du papier en France, et en 1999, on est en 100% recyclé. Donc, ces 480 000 tonnes qui rentrent en France, ça s'est développé autour de Chapelle. Donc, les 350 km autour de Chapelle, notamment le Grand Paris et autres, ont commencé vraiment à se structurer autour de ça. Vous retirez du milieu de l'équation, vous retirez la Chapelle d'Arblay, c'est obligé de partir beaucoup plus loin, voire trouver des solutions. C'était une catastrophe sur le coup. Ça a été vraiment. Les centres de tri avaient écrit des articles entiers en disant n'en jetez plus, on déborde. À Brest, ils ne savaient plus quoi en faire. Et quand vous ne pouvez plus sortir votre matière, vous ne pouvez plus en rentrer. Quand vous en rentrez plus, qu'est-ce qu'on fait des poubelles?
Alors, ça, c'est là que la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets.
Alors, pour le moment, en tout cas pour ce qui concerne les chapelles, les volumes sont beaucoup moindres dû à la crise sanitaire. Ça peut encore partir en Allemagne tant qu'il y a un débouché. Donc, c'est quand même 800 km de plus par camion. C'est quand même 2 800 000 km de plus pour le moment. On devient un peu fou, hein, mais…
En termes d'impact écologique, ce n'est pas forcément top non plus.
C'est complètement fou. Hein, mais, et quand tout va redémarrer et que l'Allemagne n'en prendra plus parce qu'elle n'aura plus besoin de prendre du papier, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'Espagne n'en prend plus, la Chine a fermé ses frontières et c'est des matières à valoriser en France. Parce que même si ça représente des poubelles, c'est une valeur ajoutée. Et quand on revalorise ces déchets, ça représente de l'argent. Chapelle d'Arblay, à elle seule, pesait pour 40 millions par an dans le chiffre qu'on peut mettre en argent dans le recyclage. On rachetait, on participait à 40 millions dans le recyclage. C'est énorme. Énorme. Il faut savoir que les collectivités marchent sur trois modes de financement. D'une, les taxes d'enlèvement que paye chaque citoyen. De deux, le prix de vente qu'ils peuvent revendre les matières triées. Et de trois, ce que les éco-organismes leur versent. Donc, chaque personne paye sur l'éco-organisme quand on achète. C'est collecté par les éco-organismes et ils reversent une subvention pour les centres de tri. À partir du moment où les matières secondaires, les poubelles, ne peuvent plus être valorisées, donc vendues, la variable de l'éco-contribution, elle ne bougera pas. Le prix des matières premières s'effondre. Donc, il reste qui? Il ne reste que le contribuable pour rattraper le coût des matières.
Et ça, malheureusement, ça va se répercuter dans le prix des consommations, dans le prix des produits.
Ça commence déjà. Il y a beaucoup de communes qui commencent à annoncer être obligées de monter 40, 50, 100, 200 euros pour l'enlèvement des poubelles. Ça, c'est malheureusement, c'est un fait. Donc, évidemment, on a tout de suite demandé à UPM ce qu'ils comptaient faire, sachant qu'on initie le recyclage en France, on force limite tout un État entier à changer son mode de collecte. Qu'est-ce qu'ils comptent faire maintenant en partant? Ils nous ont répondu que ce n'était pas leur problème.
Tout simplement. Voilà. On va aborder justement ce point de vue de UPM, donc ce groupe finlandais qui détient actuellement l'usine Chapelle d'Arblay. Déjà, peut-être un petit peu le présenter, nous dire c'est un groupe finlandais. Alors, est-ce qu'ils travaillent dans le papier aussi en Finlande? Est-ce que c'est des forestiers? Est-ce qu'ils sont consacrés au recyclage? Et puis après, nous dire peut-être pourquoi, selon quelles raisons ils donnent pour quitter un site qui est à la fois profitable écologiquement et économiquement, d'après ce que vous nous dites.
Chapelle d'Arblay, c'est un groupe, c'est une multinationale, c'est un groupe finlandais qui est présent, UPM, oui, qui est présent dans 19 pays. C'est un groupe donc, qui fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un groupe qui a plusieurs divisions, mais c'est un groupe qui est avant tout papetier. Ils sont forestiers, ils gèrent en direct ou pour le compte d'autrui près de 12 millions d'hectares de bois, de forêt qu'ils exploitent. Donc il y a une division pour le bois de construction, il y a une division pour le papier de communication. Il y a une division pour ce qu'on appelle le labels, donc les étiquettes adhésives. Et puis, depuis maintenant 15 ans, UPM a pris le parti d'opérer des virages industriels vers tout ce qui est biomatériaux, biofuel, biochimie. Actuellement, UPM, effectivement, se sert de son business papier de communication comme fonds de roulement ou en tout cas capacité à pouvoir investir, notamment comme ils le font en Uruguay, sur de nouvelles usines et de nouvelles unités de production de pâtes marchandes à partir d'eucalyptus. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'investir près de 4 milliards de dollars, c'est conséquent, en Uruguay.
C'est donc des monocultures arboricoles, c'est-à-dire que c'est des endroits où ils plantent des nouveaux arbres spécifiquement pour faire de la pâte à papier.
Alors, ce sont des arbres, effectivement, oui, des eucalyptus, des arbres à croissance rapide. Alors, je ne suis pas un technicien, mais ce sont des arbres qui atteignent plusieurs mètres après seulement 5 ans de mise en culture. Donc, oui, ce sont des monocultures avec tout, effectivement, ce qui peut, peut y avoir comme conséquence à côté.
Voilà, il faut voir un petit peu la différence parce qu'on a quand même travaillé jusqu'à avant 99 à partir de bois hein, pour fabriquer le papier journal, en tout cas à Chapelle d'Arblay. D'autres continuent beaucoup, tous d'ailleurs. Mais il faut comprendre un petit peu la différence. Avant, le forestier, donc le papetier qui était en même temps forestier, prenait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup très soin de sa forêt. C'était la sylviculture, était quelque chose d'important pour eux. C'était des gestions sur des centaines d'années. Pour être sûr d'avoir toujours les matières premières, ce n'était pas un côté écologique, c'était pour être sûr d'avoir leurs matières premières. Ils ne pouvaient pas se permettre de raser des pans entiers, donc ils faisaient toute une sylviculture, ce qui a permis d'ailleurs de garder de très grands pans de forêt. On peut au moins leur rendre ça, c'est de garder de très grands pans de forêt. Mais s'ils se détournent maintenant de cette idée d'être forestier et de partir sur l'eucalyptus, alors là, c'est une catastrophe. Ce qui se passe en Uruguay, c'est une catastrophe. Là où on rase tout un pan de prairie, de forêt, on fait des routes à travers les forêts, on change tout un quai, on tord le bras de l'État. Oui, effectivement, là-bas, ce qui se passe là-bas est une catastrophe environnementale et c'est une catastrophe aussi sociétale parce que le pays n'en voulait, en tout cas les citoyens de ce pays-là n'en voulaient pas. Ça a limite déclenché une guerre civile leur venue sur place. Et tout le monde sait très bien qu'à l'endroit où on plante de l'eucalyptus, ne poussera que de l'eucalyptus. Ça assèche les terres, c'est des pousses à croissance rapide, ça étouffe tout le reste. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est de réutiliser le papier qui est déjà fabriqué dans toutes les autres matières, de le collecter et de fabriquer le reste avec. On utilise tous des bloc-notes, on utilise tous des papiers dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que ou de la publicité ou des notes d'information. Il y a des milliers de tonnes qui existent, qui sont jetées dans les poubelles, autant que ce soit réutilisé pour fabriquer d'autres types de matières. Et ça fait partie des projets qu'on porte maintenant pour sauver la Chapelle d'Arblay. On a développé, on a porté les études, pour 200 000 euros quand même d'études, ça fait beaucoup. Et au sort de ces études, par exemple, réutiliser les poubelles pour fabriquer une matière première qui servirait de voie d'isolation. Ne pas fabriquer la voie d'isolation avec des matières, ce qu'on pourrait dire, nobles, mais réutiliser les déchets, les transformer en une nouvelle matière, et cette matière-là, la transformer en voie d'isolation, ce qu'on insuffle dans les plafonds à la place de la haine de verre, la haine de roche, etc. Ça, c'est un gros projet qu'on a en cours. Les études sont en cours au CTP. CTP, c'est Centre Technique du Papier. C'est une référence européenne, voire mondiale, sur le domaine du papier. On est aussi sur de la fabrication de PPO, de papier pour onduler. Donc ça serait pour faire de la caisserie, de la caisse carton, toujours à partir de recyclés. On récupérait énormément de volume et on serait sur un fret entre les entrants et les sortants d'1 500 000 tonnes. Donc ça serait quand même quelque chose d'assez important en gardant ce qu'on sait faire à la Chapelle d'Arblay, c'est-à-dire l'économie circulaire et du circuit court.
Donc ça, ce sont les projets mis en place par les salariés, par l'équipe qui veut rester en place, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. C'est les projets que nous portons parce que UPM, lui, a lancé son projet en 2019, a lancé sa voie Florange, s'est équipé d'un cabinet de recherche, le cabinet Arsenium, pour rechercher un éventuel repreneur. Ça a lamentablement échoué, tout ça. Et nous, à partir de ce moment-là, on a décidé de reprendre les choses en main bien plus dur que ce qu'on faisait à ce moment-là. Donc, on a décidé de rentrer dans une négociation, de négocier un accord majoritaire à la seule condition d'obtenir le maintien du site en état pendant un an. Donc, ça, c'était en 2020. Donc, en juin 2020, on a obtenu ce maintien du site en état pendant un an. L'usine est à l'arrêt, mais maintenue en état avec sa maintenance et tout ce qui va avec. Et nous, on a prospecté, on a mis les connexions, on a étudié énormément, beaucoup de travail pour lancer ces études, pour trouver une vraie solution à Chapelle d'Arblay. Donc, Ernst & Young avait lancé ses prospections, ça avait échoué lamentablement et l'usine était condamnée à être ferraillée parce que c'est l'avenir qui attend à Chapelle d'Arblay, c'est démantelé et ferraillé, c'est écrit comme ça par le groupe. Nous, on a lancé tous nos travaux. Visiblement, on a dû mieux travailler qu'Ernst & Young, on devrait être payé beaucoup plus cher peut-être. puisque on a six offres de reprise qui ont été déposées au groupe UPM, dont 4 qui sont des projets papetiers très intéressants. Donc, effectivement, on ne peut pas trop les développer parce qu'on ne voudrait pas que tout le monde se mette en concurrence et que ça puisse faire échouer toute cette procédure, mais 6 offres sont en cours, donc c'est que le travail est bien fait, que Chapelle d'Armure, on ne s'était pas trompé, c'est vraiment quelque chose à valoriser. Il nous reste maintenant à voir si UPM acceptera une de ces 4 offres papetières pour sauver le site et redémarrer un petit peu tout ça.
D'accord, donc si je comprends bien, ce sont vraiment les salariés mobilisés qui tiennent à leur usine, qui sont en train de trouver des solutions pour la maintenir en place. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces alliances, de cette mobilisation ? Donc, vous êtes délégué syndical CGT. J'imagine que les ouvriers licenciés sont encore mobilisés avec vous pour en espérant réintégrer le site. Je sais qu'il y a aussi une alliance avec les écologistes à travers le mouvement Plus Jamais Ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire part de ces alliances qui se tissent autour de Chapelle d'Arblay, ces alliances entre social et écologique, mouvement des travailleurs, mouvement des gens concernés par l'économie circulaire?
Alors oui, c'est relativement simple. Alors pour ce qui se passait à Chapelle d'Arblay, c'est même beaucoup plus simple que ça. C'est que Chapelle d'Arblay existe encore parce qu'il y a une mobilisation de salariés très, très importante en 1983. En 1983, il y avait 2 usines dans le groupe qui étaient propriétaires à l'époque. Et les salariés sur place, la CGT, évidemment, parce qu'on a toujours été majoritaire et voire seul sur le site, s'est mobilisé pendant plus de 100 jours. Se sont mobilisés, ont occupé les 2 usines. Il y avait 2 usines, occupé les 2 usines, ce qui a permis à ce moment-là de sauver la Chapelle d'Arblay et de redémarrer ces deux sites. Ça a vraiment été la mobilisation du personnel. Donc historiquement, déjà sur place, tous les salariés sont sur place, c'est très familial ici, c'est beaucoup des descendants, des enfants. Moi, je travaille ici avec mon frère, Julien vous expliquera tout à l'heure, toute sa famille aussi était là, d'ailleurs toute sa famille a travaillé là aussi. C'est très familial, c'est un cocon, ça représentait plus de 1000 salariés à une époque, mais c'est un cocon, on prend soin les uns des autres, c'est une usine vraiment familiale dans le sens où on se connaît, on s'appelle et on prend soin les uns des autres. C'est un petit peu ce qu'on vit dans les usines en 5-8, mais il faut connaître un petit peu le monde de l'industrie pour voir ça, c'est une industrie lourde. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça aussi qu'on a cette cohérence entre nous, cette liaison. Donc, c'est évidemment, étant nous les héritiers de cette lutte-là, sachant que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont sauvé leur boîte, accompagnés de leur syndicat CGT, forcément, toutes les luttes qui en sont suivies derrière, les salariés ont toujours suivi ces orientations de, voilà, on sera acteur dans la sauvegarde de notre site. On ne fera pas que subir, on ira toujours chercher plus. C'est normal, c'est à nous. On le dit depuis le début, Chapelle d'Arblay, c'est nous, et Chapelle d'Arblay, c'est à nous. C'est comme ça qu'on voit les choses, et c'est pour ça aussi qu'on y mettra tout ce qu'on a pour la sauver. Après, sur place, évidemment, il y a eu tout ça. On a voulu démontrer ce qu'était la Chapelle d'Arblay. Très vite, beaucoup nous ont appelés en nous disant, voilà, mais vous êtes le site de l'avenir, vous êtes le site inscrit dans la revalorisation, l'économie circulaire. C'est vrai que c'est un fait. On n'a pas voulu surfer sur une mode, c'est un fait. Chapelle d'Arblay, c'est l'usine qui aurait dû être le phare pour animer les autres industries à prendre cette voie-là demain, mais elle a fermé hier. C'est malheureusement ce qui nous gêne le plus, c'est on voulait être un modèle pour démontrer aux autres, oui, regardez, c'est possible de le faire. Oui, regardez, on peut tourner comme ça, on peut revaloriser ses eaux, on peut revaloriser ses déchets, et en plus, économiquement, c'est viable. Donc, ça aurait dû être un phare à démontrer aux autres, et ça ne l'a pas été, malheureusement, parce qu'elle a fermé avant. Parce qu'un industriel, ça ne marche que comme ça. Il faut lui démontrer qu'il peut se faire en mettant 1 euro, il peut s'en faire 10, sinon il s'en fout. Donc il aurait fallu pouvoir démontrer que oui, c'était possible de le faire à Chapelle d'Arblay. Après, concernant cette alliance, ça part d'un principe très simple, et je pense que tout le monde a été assez intelligent pour s'en rendre compte, c'est que Philippe Martinez l'avait dit il y a très longtemps, il faut cultiver ce qui nous rassemble. Il faut arrêter de s'opposer sur tout un tas d'histoires. À partir du moment où on est d'accord sur un sujet, alors on y va tous ensemble. Et est arrivé le monde d'après, et plus jamais ça, où il y a une petite vidéo qui était sortie. D'ailleurs, on m'avait demandé de prêter ma voix, d'aller faire un tout petit texte. J'étais très content à ce moment-là. Il y avait eu Maziro, Damido et autres qui avaient commencé cette vidéo. C'était très sympa. Et on avait eu cette petite phrase qui nous avait fait plaisir pour cette lutte et pour cette cause. Et est né derrière le collectif Plus Jamais Ça, où on nous a proposé de la recevoir sur le site, sur cette première sortie, cette première visite tous ces groupes-là, et notamment de Greenpeace, sur un site industriel. Donc, on n'a pas vendu du rêve. Quand on a fait cette visite, on n'est pas venu expliquer, on fait ci, on fait ça. Non, on est venu démontrer. On a fait visiter le site, on a montré voilà ce qu'on fait ici. Chapelle d'Arblay, c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. On n'a pas essayé de montrer aux gens des dorures, des machins. Hein. Non, non. On a juste montré ce qu'on faisait. Et ça, ça a suffi à plaire. C'est vraiment rassurant dans l'orientation qu'on prend pour sauver notre boîte. C'est plutôt rassurant de se dire on ne se trompe pas. C'est réellement ça, la Chapelle d'Arblay. Et c'est ce qui a permis aussi derrière de recevoir, de discuter et d'avoir le soutien de tout le monde.
Je rappelle pour nos auditeurs, auditrices, donc le collectif Plus Jamais Ça, ça rassemble la CGT, ça rassemble aussi FSU et Solidaires, donc trois syndicats nationaux, et ça rassemble des grandes organisations écologistes comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, comme Oxfam, j'en oublie peut-être une ou deux. En tout cas, c'est un collectif qui mélange ONG environnementales et syndicats de travailleurs, ce qui est quand même assez original dans le paysage politique français. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensemble avec Plus Jamais Ça? Je crois qu'il y a eu une action à Paris-Bercy récemment.
Oui, il y a eu une action à Paris-Bercy, effectivement. Donc ça a été organisé par le collectif Plus Jamais Ça, où il avait été décidé une action pour peut-être faire parler de Chapelle un peu plus fort et démontrer que les communiquer, c'est bien. Parfois, il faut peut-être se mobiliser pour en montrer qu'on ne rigole pas. Donc, on a été à Bercy. Donc, je passerai quelques détails, mais on a occupé le quai de Bercy en bas, donc en gros, on a pété la porte, on est rentré, il y a une manifestation sur le parvis en haut, et on a bloqué le quai en bas, où on a pu constater qu'ils avaient des petits ascenseurs privés, des bateaux militaires, enfin c'est assez sympa, c'est
pour protéger. Comme quoi, c'est pas stratégique de bloquer les ascenseurs à Bercy, on le dit, pour les personnes intéressées, ils ont leurs ascenseurs privés.
Ouais, ils ont d'autres sorties encore, mais oui, je pense qu'il y a ce qu'il faut sur Paris. Mais donc oui, voilà, on s'est retrouvé en bas avec une revendication toute simple, vous allez nous recevoir maintenant à Bercy, au ministère de l'Industrie, parce qu'on voulait leur rappeler un petit peu, s'il vous plaît, vous êtes ministère de l'Industrie, il y a une industrie en danger, c'est la dernière en France, c'est la seule et unique. Au bout d'un moment, on leur demandait simplement de faire leur boulot. C'est un peu difficile de dire, nous, on a fait leur boulot, reprenez les rênes en main et faites votre boulot. Ça a pris beaucoup de temps, ça a été compliqué, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de mal à recevoir tout le monde. Ils n'ont pas voulu recevoir au démarrage la délégation, tout simplement. Ils voulaient juste recevoir donc, mes deux compères de galère, Arnaud et Julien, qui étaient à l'étage. Nous, on restait en dessous pour être sûr de se faire déloger et prêts à s'attacher. On avait de très belles chaînes, des beaux canards, c'était prêt. Donc, au début, ils voulaient recevoir que les deux pour une réunion technique. Ça a été refusé. On y va tous, on n'y va pas. C'est comme ça qu'on travaille, hein, c'est clair. On n'y va pas non plus pour foutre le feu. On est venu pour discuter. Donc, si on vient pour discuter, vous nous recevez, on discute. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça s'est débloqué au bout de pas loin de 7 heures quand même. Même ça prend du temps de se faire entendre. Et ça s'est débloqué. Et donc, ont été reçus par la ministre Agnès Pannier-Runacher, Philippe Martinez qui représentait tout le collectif Plus Jamais Ça, Arnaud, Julien et moi-même.
Ben alors, peut-être qu'on peut passer la parole à Julien qu'on n'a pas encore entendu pour nous donner un petit peu la substance rapidement de cet échange avec le ministère. Donc, le ministère de l'économie et de la finance, ici à Bercy, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concernant l'avenir de Chapelle d'Arblay?
Ils nous ont dit qu'ils suivaient le dossier de près, mais surtout, nous, ce qu'on leur a dit, c'est que nous, en fait, la lutte de Chapelle d'Arblay, on l'a orientée très simplement par ce qu'on sait faire. Sur nos affiches qui sont souvent publiées, c'est « Sauver la Chapelle d'Arblay, c'est un geste simple pour l'environnement ». Et surtout, c'est qu'on leur a dit, mais aujourd'hui, vous avez une politique environnement, on vous entend parler, on a entendu le président parler il y a quelques temps de réindustrialisation, que le monde de demain sera vert, soit. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Puisque à Chapelle d'Arblay, il y a un dossier, il y a des solutions, puisque le travail que Cyril a dit, qu'on a mené avec 6 offres non engageantes aujourd'hui, avec 4 offres papetières, il y a de l'intérêt pour le site, mais qu'est-ce que vous faites? Et donc, ils nous ont dit qu'ils suivaient le dossier, mais concrètement, il n'y a aucun engagement écrit de l'État qui s'engage à sauver le site ou à tordre le bras du propriétaire finlandais UPM. C'est ça le problème aujourd'hui qu'on fait face, et moi qui me révolte personnellement, c'est que l'État va dérouler des subventions, va dérouler le tapis rouge aux industriels, qu'ils soient français ou étrangers, pour venir en France, pour s'installer, pour créer de l'emploi. Ils dérougent tout le tapis rouge, les subventions, ok, très bien, voilà, très bien. Sauf que quand ces mêmes industriels qui se disent verts, qui font de la communication vert, mais qui sont tous sauf verts et qui sont juste capitalistiques, décident de partir, parce que pour eux, c'est plus rentable, eh ben, l'État ne peut plus rien faire. On est dans un état de droit et l'État ne peut pas tordre le bras à un propriétaire pour dire de vendre. Nous, tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'État fasse entendre à UPM qu'il y a de l'intérêt pour le site, qu'il y a des offres de reprise. Donc, vendez le site. Surtout, il faut le vendre à un bon industriel parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'hydrogène, voilà, de solutions de reprise sur toute la France, des projets d'hydrogène qui pourraient être créés. Sur notre site, Chapelle d'Arbé, le projet hydrogène qui est une des offres est tout sauf entendable car c'est un projet qui rase les machines, qui rase tous les actifs que Cyril a nommé tout à l'heure, c'est-à-dire les deux machines à papier, tout l'outil des ancrages. Et donc, en fait, on fait de l'hydrogène et on rase tout le site. Nous, ce n'est pas ce qui nous convient. Ce qu'on veut, c'est une solution papetière.
Pour nos auditeurs, auditrices, peut-être, qu'est-ce que c'est que cette histoire de solution hydrogène rapidement industriellement, ça correspond à quoi?
Ils veulent venir sur le site, raser le site, ils ont besoin de place. L'hydrogène, en fait, c'est un peu ce que tout le monde a le vent en poupe. Et ils se servent, en fait, nous, on a sur le site, en fait, on a on a de l'électricité à haute tension. Ils se servent de cette électricité, ils se servent de l'eau parce qu'on est en bord de Seine. Et en fait, ils cassent les molécules d'hydrogène. Alors, je ne suis pas très technique sur ça parce que moi, c'est le papier, ce n'est pas l'hydrogène. Et donc, je ne vais pas m'intéresser plus là-dessus. Mais en fait, après, c'est de vendre l'hydrogène à d'autres industries où on entend beaucoup parler, par exemple, de certains qui voudraient des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, etc. Mais c'est surtout une filière qui n'est pas créée. C'est une filière en devenir peut-être. Mais aujourd'hui, c'est des projets qui mettent 3 à 5 ans à sortir de terre. Et en 3 à 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses.
Ce serait de l'énergie, en fait, de la production énergétique.
Et c'est un pari sur l'avenir. Nous aussi, aujourd'hui, on veut continuer à faire ce qu'on sait faire et surtout à rester une solution au recyclage des papiers des Français, être fier de ce qu'on fait. On prend des choses usagées, on en fait une matière noble et ça marche très bien, que ça soit sur papier ou sur carton. On ne veut pas faire ce qu'on ne sait pas faire et surtout ce qu'on... Pour l'instant, personne ne nous a démontré que c'était viable l'hydrogène.
Oui, et surtout, ça supposerait aussi, vous avez dit que ça supposerait aussi de raser l'usine. Donc, c'est aussi un énorme gaspillage en termes d'actifs, de matériaux, de machines, de tout l'état de l'usine, en fait. C'est aussi un énorme gaspillage de ce point de vue-là.
Exactement. Chapelle d'Arblay, si on rappelle ce que c'est un site de 33 hectares. Nous avons un centre d'affinage, c'est comme un centre de tri. Nous avons de la place pour stocker des entrants annuels de 480 000 tonnes, 3 lignes de désancrage, 2 machines à papier, on est embranché chemin de fer, on a une station d'épuration biologique. Quand on dit que ça doit être un exemple, c'est un exemple. Si derrière on accepte, pas nous, hein, mais si derrière le propriétaire préfère passer sur un projet hydrogène plutôt que papetier parce qu'il ne veut plus trouver de machines à papier parce qu'il ferme pour des raisons de compétitivité mondiale, il ne veut plus de papier journal sur le marché, ni de machine qui soit capable d'en produire pour continuer à vendre le sien qu'il va fabriquer dans des pays où ça coûte moins cher. Parce que ça coûte moins cher de le fabriquer à partir de bois qu'à partir de recyclage. C'est hallucinant quand même, hein, mais c'est le monde de maintenant. Et si on les laisse venir, ça veut dire qu'ils gardent une chaudière biomasse comme on a maintenant. Chaudière biomasse, c'est une chaudière alimentée par les déchets de fabrication. On a cette chaudière biomasse, il la modifierait, éventrerait, l'utiliserait pour cramer des plastiques. Tout ça pour fabriquer un petit peu d'énergie, pour faire toujours un petit peu de pognon, et raserait tout ce qu'on vient de citer pour trouver de la place et se dire, voilà, c'était un site qui avant était, on appelle ça électro-intensif parce qu'il fallait beaucoup d'énergie pour broyer le bois. Maintenant, on est passé au recyclage, on a besoin de beaucoup moins d'énergie, mais on a gardé les lignes. C'est un des rares sites qui fait 225 000 volts. Ce sont des choses en France, voilà. Donc, on a toujours un poste de 225 000 volts. C'est ça qui les intéresse, l'hydrogène. Et donc, c'est de garder l'eau de la Seine, de faire de l'électrolyse, de fabriquer de l'hydrogène. Ça n'a absolument rien de vert, mais en mettant un petit logo et puis en prenant un fonds de transition écologique, ils seront contents. Donc, c'est quand même des projets à 350 millions d'euros. Si on met ça sur 3-4 sites, c'est des projets à presque 1 milliard. Non, on est totalement contre. L'hydrogène, il y a d'autres moyens d'en fabriquer. Station d'épuration biologique, on méthanise. Il y a plein, à Dijon, ça se fait, ils ont méthanisé. On peut fabriquer l'hydrogène à partir de méthane. Donc, on utilise les déchets d'une station d'épuration, hein, les petits gaz qui sont faits par les bactéries. On craque ça avec de la vapeur à la rigueur et là, on aura de l'hydrogène. Et là, on pourra dire que c'est vert parce qu'on a revalorisé. Il faut arrêter un petit peu dans les communications de dire on met un logo vert, tout le monde est content. Un petit exemple que tu pourrais prendre, Arnaud. Juste derrière nous, on a le quai de la papeterie, parce qu'évidemment, on est en bord de Seine. Le quai de la papeterie a été refait il n'y a pas longtemps. Et sur une ville à côté, ils ont communiqué, c'est très content dans la région, ils ont communiqué, il n'y a plus d'enfouissement en Normandie. Tous les CSR, ces CSR sont des combustibles solides de récupération, en gros, c'est des plastiques. Il n'y a plus de solution, on met ça en balle, on envoie ça en Suède, ils vont les racheter. Donc, ça part de chez nous, d'un côté, ça va au quai derrière et ça part par bateau en Suède. Donc déjà, bon, le bilan carbone, il est propre. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que s'ils sont obligés de faire ça, c'est parce que la seule solution qu'ils avaient trouvée, c'était la chapelle d'Arblay. Pour alimenter la chaudière biomasse avec des bouts de désancrage, on contrôlait la température, on évitait les vapeurs toxiques en brûlant du papier, du plastique. Et ça, par contre, ils n'en parlent pas. Ça, c'est hallucinant. C'est des choses qu'on vit ici actuellement sur place. C'est de voir toutes les solutions qu'on avait pu trouver sont complètement dénaturées. Et on trouve des solutions, on va mettre de l'argent public pour envoyer ça en Suède. C'est complètement hallucinant.
Oui, c'est à la fois un énorme gaspillage matériel, financier, humain. Et puis, on voit bien dans ce que vous dites, hein, sur quel tour de passe-passe et quelle manipulation rhétorique en fait repose ce greenwashing et cette communication verte, qu'elle soit d'un groupe industriel ou d'un gouvernement. On voit bien jusqu'où ça mène. On va se faire peut-être une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter ensemble une petite chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle « Les petits papiers » pour rester dans le thème. À tout à l'heure sur Fréquence Paris Pluriel. Donc là, il y a la musique qui commence et là, il y a la musique qui finit et on reprend.
On reprend la musique.
Vous l'aurez quand vous vous réécouterez, la vraie, la bonne version. Là, je vous enverrai le podcast, bien sûr.
Super.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Radio Zoom Écologie. Et aujourd'hui, je suis en discussion avec Cyril Briffaut, Julien Sénécal et Arnaud Doxer, employés de la Chapelle d'Arblay, parmi les derniers employés de Chapelle d'Arblay, ce site industriel de Seine-Maritime, qui était un des plus grands producteurs de papier recyclé journal en France et qui est actuellement à l'arrêt suite au projet de revente du groupe propriétaire UPM. Donc, nous avons discuté des énormes capacités de ce site, de l'énorme gaspillage environnemental, économique, humain que représente cette fermeture et puis, en quelque sorte, de l'état des négociations qui semble pour l'instant au point mort puisque l'État a jusqu'au 15 juin pour se prononcer sur une éventuelle reprise de ce site. Et on voit bien que les ouvriers et les employés, le collectif de travail a beaucoup de propositions pour reprendre le site, tandis que UPM s'est complètement désengagé. Alors pour... Excusez-moi, un téléphone qui a sonné, je vais recommencer. De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Zoom Écologie et je suis actuellement en compagnie de Julien Sénécal, Cyril Briffaut et Arnaud Doxer, trois employés du site Chapelle d'Arblay, donc cette grande usine de recyclage, de production de papier journal recyclé en Seine-Maritime qui est actuellement à l'arrêt. Elle est à l'arrêt car le groupe UPM, qui est propriétaire, son groupe propriétaire finlandais, a décidé de la fermer pour réouvrir des usines en Uruguay à partir non pas de papier recyclé, à partir non pas de déchets, mais à partir de monocultures d'eucalyptus, comme on l'a appris tout à l'heure. Nous avons évoqué ensemble donc, le passé de ce site, toutes ses capacités, et puis l'état de point mort devant lequel se trouvent les négociations. Donc, pour reprendre notre conversation, peut-être qu'on pourrait justement évoquer ces négociations avec l'État. Est-ce que vous êtes allé voir, par exemple, le ministère de la Transition écologique et solidaire? Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez été à Bercy, vous avez occupé, vous avez bloqué, vous avez réussi à avoir une discussion avec la ministre. Qu'en est-il du ministère de l'écologie, puisque vous êtes un site qui est, comme vous nous disiez tout à l'heure, à l'avant-garde de l'économie circulaire, hein. Je rappelle, vous êtes un des premiers sites à avoir lancé le papier recyclé en 1985 en France. Donc, que dit le ministère de la Transition écologique et solidaire à propos de Chapelle d'Arblay?
Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est notre, quelque part notre tour d'expérience, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'État, les services de l'État, les ministères travaillent en silo. Il n'y a aucune résonance entre eux, il y a très peu de partage. Et quelque part, le seul échange que nous avons eu avec le ministère de l'écologie, c'est à la faveur d'un déplacement de la ministre en marge de Lubrizol à Rouen, Une parlementaire avec laquelle nous travaillons avait réussi à nous organiser une entrevue vraiment entre deux portes. Ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Ce qu'il en est sorti, c'est pas grand-chose. La ministre nous a simplement demandé, ça c'était en décembre 2019, mais comment est-ce que je peux vous aider ? Effectivement, vous voyez que quelque part, la question n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et sachant qu'auparavant, on avait demandé maintes rendez-vous avec la ministre, avec le ministère de la Transition écologique et du développement durable. Et la seule réponse qu'on nous avait faite à l'issue de cette demande, c'était de nous renvoyer vers un conseiller au ministère du Travail pour nous expliquer comment notre plan de licenciement allait se passer. Donc, c'est un peu court. Donc, voilà, c'est très décevant. Je pense qu'on en est encore dans ces postures de la parole et on est très loin de cette prise de conscience que notamment le syndicat, la CGT, a eu dès le début sur cette nécessité qu'il faut maintenir sur le territoire des unités de recyclage, des unités, des débouchés aux gestes de tri des Français. Il faut être autonome, il faut être indépendant sur ces questions de recyclage, d'autant plus que nous avons démontré au travers de nos études que un industriel pouvait tout à fait réutiliser ses outils de production pour d'autres applications, malheureusement que celles que représente le papier journal. Quoique, on reste convaincu aussi qu'il y a un avenir dans le papier en France.
Vous êtes souvent confronté à cette idée que la presse, le papier, tout ça, c'est terminé, c'est un marché qui est en baisse à cause du numérique. On vous sort souvent cet argument ?
Bien sûr, il y a toujours cette petite musique lancinante et qu'on nous rabâche et qui est pilotée par les GAFA notamment. Hein, mais en fait, il est plus facile d'aller vers ces nouvelles technologies que de se poser la question sur la culture, sur le papier, sur ces vecteurs d'information qui ont comme vertu, eh bien, quelque part, d'engager ceux qui écrivent dessus. Pourquoi ? Parce qu'un journaliste, quelque part, lorsqu'il écrit un article de presse, déjà, a digéré l'information et l'a restitué en engageant sa responsabilité de journaliste dessus. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec les supports dématérialisés, maintenant, je n'oppose pas l'un et l'autre, hein, les deux sont complémentaires, mais simplement, ce qu'on voit souvent à la fois sur des chaînes d'infos en continu ou sur de l'information qu'on peut trouver sur Internet, c'est que, quelque part, on est guidé dans nos recherches pour aller vers telle ou telle information. On n'a plus le choix d'avoir une information qu'on puisse balayer avec notamment notre regard. On est dirigé dans notre capacité d'analyse et le vecteur papier servait à ça notamment.
Ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est qu'il y aura toujours une consommation de papier. Je ne pense pas que demain, les Français soient tout numériques, même si… Ok, nous, on l'admet aussi que, par exemple, les jeunes lisent beaucoup moins, que c'est plus nos anciens qui sont très habitués à leur quotidien, etc. Mais il y aura toujours une consommation française papetière. Par contre, ce qui est anormal, c'est qu'en France, la seule usine à faire du papier 100% recyclé soit fermée et qu'aujourd'hui, vos papiers, les Français, les auditeurs, vos papiers que vous allez payer plus cher pour qu'ils soient enlevés, soient envoyés dans d'autres pays pour que, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, soit fabriqué du papier journal et que la France rachète, en fait, le papier aux autres pays. Et que du coup, pareil, on fait venir du papier d'Allemagne ou via des traders du Brésil ou Russie ou n'importe où, et que ce papier-là fasse des millions de kilomètres pour venir en France, pour être imprimé en France, etc. C'est anormal. À un moment donné, il faut aussi, le président Macron le dit, « made in France », il faut rester « made in France ». Il y a une consommation papetière française de journaux, il faut qu'elle soit fabriquée en France, il ne faut pas qu'elle soit fabriquée en Allemagne ou autre part. C'est complètement hallucinant. Et en plus, on va payer plus cher pour ça. Donc, arrêtons un petit peu les bêtises.
Ce que j'entends en vous écoutant, c'est que, en fait, une économie mondialisée du recyclage, elle ne pourra jamais être écologique, puisque tout ce qu'on gagnerait à recycler plutôt qu'à planter en monoculture arboricole ou en déforestant, finalement, on va le perdre en transport et en transport de matériaux. Donc, il y a vraiment une urgence à relocaliser cette économie circulaire pour qu'elle soit vraiment ce qu'elle prétend être, à savoir un bénéfice écologique.
Vous savez, ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on passe son temps depuis des années maintenant, comme le rappelaient Cyril et Julien, Chapelle d'Arblay a inventé le recyclage et a porté le recyclage des papiers en France il y a maintenant 35 ans. Effectivement, on parle maintenant d'économie circulaire. Avant, nous parlions de récupération et de transformation, de réutilisation de cette matière déchet pour en refaire une nouvelle matière première. Mais ça avait du sens parce que c'était du local. Encore une fois, notre sourcing, notre source d'approvisionnement reste les collectivités locales, le tri issu des collectes sélectives. Donc, c'est-à-dire, c'est avec, quelque part, l'effort de tri des Français, avec nos impôts aussi, nos taxes, que nous récupérons ici sur Chapelle ce papier que nous retransformons pour en faire un nouveau papier journal. La cohérence voudrait d'ailleurs, comme l'a rappelé Julien, que ce papier journal serve avant tout la presse française. Malheureusement, ça n'est pas le cas pour des questions de concurrence et autres. Mais certains portent cette idée que l'économie circulaire, elle peut être mondiale. Et on a vu d'ailleurs ce que ça donnait en Indonésie, notamment avec ces champs de déchets plastiques, cette mer qui est saturée dans les ports par du plastique, par des matières flottantes et des conséquences des microplastiques dans les océans. Il faut arrêter de penser, effectivement, la Terre est ronde, donc l'économie circulaire, bien évidemment, le déchet va circuler comme n'importe quelle autre matière. Donc arrêtons cette ineptie, c'est complètement incohérent. Il faut remettre de la cohérence dans ces circuits de recyclage. Le recyclage n'a de sens, comme la consommation d'ailleurs, que si elle se fait à proximité, si tant est qu'on est en capacité de transformer ou de produire ce dont on a besoin sur les territoires. Donc, pour ce qui est possible de produire, pour ce qui est possible de le faire, eh bien, le papier notamment doit être recyclé. Nous en avons les capacités sur le territoire pour une consommation locale.
Merci beaucoup, c'est très clair. Et je me demande en vous écoutant si justement ce milieu de l'édition, des médias, tout ce milieu de la presse en fait française qui est utilisatrice de papier et qui d'ailleurs continuera à l'être, vous soutient si vous avez réussi à passer des alliances avec ces autres alliés potentiels justement, d'ailleurs aussi peut-être les travailleurs d'Uruguay, les gens qui se battent contre l'implantation d'UPM dans leur pays parce qu'ils en connaissent les conséquences sociales et écologiques. Est-ce que vous avez pu passer des alliances avec tous ces autres acteurs-là ?
Alors, malheureusement, non, parce qu'il faut bien imaginer qu'à trois personnes, même si on allait de beaucoup de monde, la Confédération, évidemment CGT et le collectif Plus Jamais Ça, on a énormément de travail. On a des journées qui sont vraiment bien remplies. Et non, on n'a pas de contact, en tout cas nous personnellement, nous on n'a pas de contact avec les travailleurs en Uruguay. Et on a rencontré évidemment certains des grands patrons de la presse française, notamment dans l'idée qu'on avait eue en démarrage en 2019 de monter ce qu'on appelle vulgairement une SCIC, donc pas une SCOP, parce qu'une SCOP c'est trop compliqué, pas à monter, mais financièrement, un fonds de roulement pour une seule machine à papier, c'est à peu près 60 à 80 millions d'euros. Quand on est 200 bonhommes, c'est très, très difficile, ça fait partie des industries lourdes. Hein. Il y a une vingtaine d'années, l'industrie du papier était la deuxième industrie lourde après le pétrole. Ce sont des choses qui sont très, très coûteuses à fabriquer, mais qui sont très rentables. Voilà, c'est le monde de l'industrie. Mais non, malheureusement, on n'a pas de contact avec tout le monde. Peut-être qu'après tout ça, si tout s'arrange, on trouvera le temps de discuter avec tout le monde. Mais là, pour le moment, on est trois, on est surbooké. Donc oui, c'est compliqué. On ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout. Mais on va déjà se concentrer au maximum sur sauver la Chapelle d'Arblay. Et ensuite, peut-être donner un coup de main à sauver le monde.
D'accord.
Les groupes de presse auraient un intérêt à voir sur le territoire de nouveau repartir une production de papier journal, notamment pour des questions de disponibilité et puis pour des questions de prix également. On est convaincu que quelque part on peut casser cette concurrence effrénée qui fait qu'à un moment, eh bien, on augmente le prix du papier de 50 ou 75 euros ou 80 euros tonnes et puis que dans un autre moment, on va les baisser pour des jeux de marché. Il faut avoir de la stabilité comme on doit en avoir également sur le recyclage des papiers et sur le prix de rachat auprès des collectivités des papiers. Il y a un équilibre, il y a un nouveau business model à inventer, il y a un équilibre économique à inventer, et ça, on est convaincu que les groupes de presse auraient un intérêt à se pencher sur cette question et à valoriser avant tout un papier 100% recyclé sur le territoire. On vous rappelle que le cycle du papier, c'est 3 semaines. Entre le moment où vous allez en kiosque récupérer votre journal, que vous le lisez, que vous le remettez en collecte sélective, et le moment où le papier, une fois trié, arrive sur notre site papetier de recyclage. 3 semaines, voilà. Et quelque part, qu'un groupe papetier joue ce jeu-là, que la presse joue ce jeu-là, ne serait pas incohérent et ça aurait complètement du sens.
C'est très rapide comme cycle de récupération. Et en termes de durée de vie, c'est-à-dire jusqu'à quand on ne peut plus recycler un papier ?
Le temps d'attente ou le nombre de fois on peut le recycler ?
Le nombre de fois on peut le recycler. Est-ce qu'on peut recycler indéfiniment du papier ?
Alors non, on ne peut pas recycler indéfiniment du papier. Il faut savoir, au moment où c'est de la fibre vierge, donc ça dépend déjà de quel bois ça vient. Si c'est issu de forêts gérées durablement, donc la sylviculture, on pourra la recycler bien plus longtemps que si c'est de l'eucalyptus. Les eucalyptus sont déjà des fibres très très courtes, c'est pour ça que ça pousse rapidement, comme le bambou. C'est des choses qu'on va utiliser qu'une fois ou deux, et puis c'est fini. Hein. C'est bien la catastrophe. Tout ce qui prend du temps à pousser aura forcément des fibres plus longues. Ça, c'est clair, c'est simple. Donc, si c'est du bois comme on utilisait avant, du chêne ou n'importe quoi, ou avec des fibres longues, on estime au nombre de fois entre 5 et 7 fois, parce que c'est le nombre de fois où la fibre va s'abîmer, se raccourcir et s'empêcher de se raccrocher. Ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des fines. Ce sont des fibres qui deviennent trop fines pour être utilisées. Donc, à la chapelle d'Arblay, qu'est-ce qui se passe quand on utilise ce papier ? On ne va pas s'amuser à trier toutes les fibres qui sont trop fines, évidemment. Et donc, c'était un système d'épuration naturel avec des trous, hein, des classeurs. Et toutes ces fibres-là qui étaient trop fines pour être revalorisées en papier se terminaient avec ce qu'on appelle des bouts de désancrage, c'est-à-dire les encres retirées du papier, les charges minérales qu'on pouvait retrouver retirées du papier. Et on s'en servait, une fois qu'on avait retiré l'eau, réutilisé l'eau, on s'en servait comme alimentation pour la chaudière biomasse. Parce que ces choses-là, c'est pareil, on ne peut pas les utiliser pour les enfouir ou n'importe quoi. Ce n'était pas cohérent, donc on les a utilisés comme combustible pour la chaudière biomasse, pour faire de la vapeur, pour alimenter la machine à papier. C'est le principe de revalorisation de ces déchets.
Ouais, pas de déchets ultimes chez vous, c'est remarquable. J'ai une autre question sur les conditions de travail à Chapelle d'Arblay. Est-ce que cette mobilisation est l'occasion pour vous de revenir sur vos conditions de travail, sur les risques spécifiques de vos métiers dans la production de papier ? Peut-être on peut parler un peu de ces risques que vous connaissez et que vous traversez et que peut-être vous discutez actuellement vu que tout est possible maintenant.
Les conditions de travail, en fait, c'est faut savoir que nous, le groupe a annoncé en septembre 2019 la fermeture. L'ensemble des salariés, donc les 217 salariés, étaient sur place jusqu'en avril 2020. Il y a eu le Covid, il y a eu du coup le Covid, le confinement. Donc nous, on a demandé la société sur place à ce que les salariés restent chez eux pour éviter justement de faire face tous ensemble à cette crise. Les salariés ensuite ont été licenciés en juillet 2020. Donc vraiment, les 3 salariés que vous entendez aujourd'hui, c'est les derniers salariés depuis plus d'un an. Les conditions de travail, nous, en fait, on a été beaucoup sollicités pour beaucoup d'interviews, de visites de sites, mais nous, on a envie de retrouver ces conditions de travail. Il faut savoir qu'une industrie, une papeterie, c'est du bruit, beaucoup de bruit. Donc, on a des bouchons d'oreilles parce que c'est 90 décibels en continu sur différents ateliers. C'est de la chaleur. On travaillait toute l'année en t-shirt. On était comme si c'était en vacances, mais pas vraiment les vacances, mais vraiment beaucoup de chaleur, un milieu un peu tropical. Mais nous, ces conditions de travail, on a envie qu'une seule chose, c'est de les retrouver. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des visites aujourd'hui et que le site est entièrement vide et qu'il n'y a plus ces conditions de travail, bah, c'est plutôt une boule au ventre qu'on a qu'autre chose. On aura hâte de discuter de conditions de travail avec le prochain repreneur, si c'est un projet papetier. Et on continuera à faire avancer les choses pour faire ce qu'on sait faire, économie circulaire, conditions de travail, la sécurité. On sait aussi qu'une industrie, c'est, c'est beaucoup d'outils CHSCT, oui. Et donc, du coup, voilà, on va s'employer à continuer à défendre les conditions de travail.
D'accord, merci beaucoup. Peut-être pour terminer, Cyril, vous disiez tout à l'heure que vous êtes surbooké en ce moment. Alors peut-être nous donner les prochaines dates, l'agenda qui s'ouvre à vous, les prochaines échéances. Est-ce qu'on va avoir des annonces? Est-ce qu'on va avoir une action sur laquelle nos auditeurs, nos auditrices pourraient éventuellement vous rejoindre?
Alors malheureusement, la prochaine date à venir est celle de la fin du mois de juin, qui est la fin de notre accord majoritaire pour le maintien du site. Donc, à partir de ce moment-là, si les choses ne se décantent pas, peut arriver ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire le démantèlement du site. Ça, c'est la pire des dates. Après, là, les offres sont en cours de dépôt. Certaines ont déjà été déposées, d'autres vont être déposées un petit peu plus tard. La dernière date limite qu'avait donnée UPM, c'était le 14 mai. Et dans sa grande largesse, prendra peut-être une semaine ou deux pour les regarder. Mais vous savez, les grands groupes mondiaux comme ça ne communiquent avec nous qu'à travers des grands cabinets d'avocats. Ils posent des questions, nous répondre après, c'est toujours très compliqué. Ils aiment bien compliquer les choses, ils aiment bien que tout le monde vive en même temps. Mais non, la prochaine date à savoir, c'est qu'à partir du moment où le groupe aura décidé de rentrer dans une discussion exclusive avec un repreneur, à partir de ce moment-là, ils auront l'obligation de nous en informer. On ne restera pas les bras croisés, on l'a écrit la dernière fois dans un de nos communiqués. On va bien évidemment aller chercher toutes les informations et pousser tout ce qu'on peut pour sauver la chapelle d'Arblay. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on fait depuis le début, hein, mais… La prochaine date à venir, la pire, c'est le 30 juin.
Eh bien, très bien, bah, on restera à l'écoute de l'avenir de ce site. On vous souhaite bien du courage dans cette lutte et on vous remercie surtout d'avoir été avec nous, donc Arnaud, Cyril, Julien, les derniers salariés de Chapelle d'Arblay qui se battent pour que ce site ne soit pas démantelé et que la production de papier journal recyclé en France perdure. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt. On se quitte en musique, comme d'habitude. Vous écoutez Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel. Et on va s'écouter, pour finir, un petit titre de Mia, Paper Planes, les avions de papier, pardon. Très bonne soirée et à bientôt. Jingle.
Voilà, super.
Voilà. OK, merci beaucoup, les gars, de cette très discussion. Bien. Ouais, c'est super. C'est vraiment intéressant et vraiment révoltant. Voilà. Pas d'autre chose à dire.
C'est vrai.
Ben, on reste en contact par téléphone ou par le biais de Khaled Gaïji, parce que si, voilà, je demandais vraiment la question sur l'agenda, s'il y a une manifestation ou un rassemblement à Chapelle. Hein.
S'il y a quelque chose, pas de souci, on passe le message.
Ok, et quant à moi, ben, je vous enverrai le… Donc, c'est diffusé demain à 20h30, mais comme c'est une radio francilienne, je ne sais pas si vous pouvez écouter depuis chez vous, mais on le met dans la foulée en ligne, en podcast, et vous pouvez le partager où vous voulez. Quoi.
Pas de souci. Bah, comme ça, tu m'envoies le podcast, et puis je partage aux copains, et on écoute ça avec plaisir.
Merci beaucoup.
Et enfin, on aura au moins nos musiques, parce que nous, on n'a pas le droit aux musiques.
Ouais, mais là, je vous dis, on va passer l'après-midi à scotcher, à remonter, à, avec l'horloge de mon grand-père qui sonne derrière et tout. Bon.
Ça va être génial.
Bon, merci beaucoup encore et bon courage.
Pas de soucis, merci.
Au revoir.
Au revoir. On peut enregistrer.
On va arrêter.